Shalom, frères et sœurs, nous rendons grâce à notre Père pour le don de vie et la grâce qu'il nous a accordé d'être capables d'écouter. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, en enlevant les yeux de Bartimée, le malin avait commis une grave erreur. Il fallait qu'il enlève plutôt les oreilles ou encore la capacité d'écouter. Mais le malin avait volé les yeux de Bartimée, mais il avait laissé les oreilles. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Gloire au Seigneur. Nous continuons notre étude sur les fêtes de l'Éternel. Nous sommes au cinquième jour aujourd'hui, et nous allons aujourd'hui parler de la fête des prémices. Alors, rapidement, nous allons lire notre passage de base dans Lévitique chapitre 23. Nous lirons les deux premiers versets et ensuite nous allons lire du verset 9 au verset 14. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste. Vous offrirez, excusez-moi, en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Oui, bien-aimés, ça fait déjà, je disais, 5 jours aujourd'hui que nous parlons des fêtes de l'Éternel. Il était important qu'on commence par le sabbat, parce que nous avions dit que si on n'a pas compris ou si on ne comprend pas le sabbat, on ne pourra pas comprendre le sens spirituel des autres fêtes. Parce qu'en fait, le sabbat n'est pas une fête, mais le sabbat bien-aimé inclut et le sabbat est célébré au moment où on célèbre toutes ces fêtes. Ces 7 fêtes religieuses sont été célébrées par les Juifs en Israël pendant les 7 premiers mois de l'année. Alors, pour plus de compréhension, celui qui n'a pas encore écouté les 4 premiers jours, je le conseille de repartir vers ses enseignements pour mieux comprendre. Mais nous voulons revenir un peu au verset 1er, au verset 2 ici. L'Éternel parla à Moïse et il lui dit: Dis aux enfants d'Israël de publier des saintes convocations. Il dit, ces saintes convocations, ce sont mes fêtes. Écoutez bien, ce sont les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Si ce sont les fêtes de l'Éternel, donc c'est l'Éternel qui doit donner l'orientation ou les directives concernant ces fêtes. C'est-à-dire, le mode bien-aimé de célébration et les jours fixés pour ces fêtes. Donc, ces fêtes-ci n'étaient pas ou ne sont pas des fêtes simplement juives, mais ce sont des fêtes de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a initié, et donc c'est à l'Éternel de donner, bien aimé, la conduite à tenir quant à leur célébration ou quant à leur manifestation. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens font des célébrations qui ne sont ni initiées par l'Éternel, ni approuvé par les Écritures. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, lorsque les gens se retrouvent et fixent la date soi-disant de l'anniversaire de Jésus, pour célébrer la Noël. Vous comprenez que ce n'est pas une fête de l'Éternel, parce que ce n'est pas l'Éternel qui a fixé cette date. Et plus nous tendons vers la fin, vous allez constater que le monde va de plus en plus infiltrer l'Église, et plus le monde sera dans l'Église, il y aura bien aimé la mort spirituelle. On a fixé la date pour célébrer la Noël, et dans nos églises aujourd'hui, on entend parler de la célébration, par exemple, du 8 mars, la fête de la femme. Bientôt, on va commencer à célébrer la fête, par exemple, la journée mondiale, c'est pas du cancer, du sida, journée des pères, des enfants, des mères, etc. Donc, ce sont des célébrations, ce sont des fêtes, mais qui n'ont rien à voir avec l'Éternel parce que ce n'est pas l'Éternel qui les a initiées. Nous voulons rappeler ceci. C'est que Dieu n'a pas initié, quelle que soit sa beauté, ou quelle que soit l'impression que ça peut donner aux yeux des hommes, est une œuvre morte. Bien-aimés, on doit faire très attention. Dans le livre du prophète Zacharie, un jour, si Dieu fait grâce, nous allons parler de ça. Dans le livre du prophète Zacharie, je crois que c'est dans Zacharie chapitre 7, du verset 5 au verset 6, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Et Zacharie va prophétiser en ces termes, en parlant aux enfants d'Israël. Lorsque vous mangez et que vous buviez, est-ce que c'était pour l'Éternel? On va prendre un peu ça, c'est très important, bien que ça ne soit pas notre sujet. Mais je pense que c'est important qu'on lise ce passage. Zacharie chapitre 7, versets 5 à 6. Dis au sacrificateur, bon, pour plus de compréhension, je commence à partir du verset 4. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et au sacrificateur, quand vous avez jeûné et pleuré, au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, ces gens-là jeûnaient et priaient. Bien-aimés, imaginez-vous, pendant 70 ans, ils ont fait des célébrations, ils ont jeûné et prié. La Bible dit, quand vous avez fait ces choses, est-ce que c'est pour moi l'Éternel ou pour vous-même? Je donne un exemple. Lorsqu'aujourd'hui, dans les églises, à la fin de chaque année, dans certaines églises, on fixe 21 jours de jeûne appelé jeûne de Daniel. Hein, parce que Daniel avait jeûné pendant 21 jours. Donc c'est devenu comme un système, c'est devenu automatique. Chaque fin d'année, et on s'arrange à ce que ça ne tombe pas le 25 décembre et le 31 parce que les gens doivent fêter. Hein, le jeûne doit se terminer juste avant. Quand vous avez fait ces choses, quand vous avez jeûné pour vous et non pour l'Éternel. Et la plupart du temps, ces jeûnes-là sont motivés, bien aimés, par la peur. Oh non, dans le monde des ténèbres, les sorciers bouffent les gens souvent en fin d'année. Donc, il faut se cacher dans le jeûne. Pas en Jésus, mais se cacher dans le jeûne. Afin que lorsque ces sorciers-là vont venir, nous serons protégés. Quand vous avez jeûné, quand vous avez prié, la Bible dit, ne l'avez, écoutez, la Bible dit, lorsque vous avez jeûné le cinquième et le septième mois, et depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Est-ce que c'est pour l'Éternel? Bien-aimé, quand vous proclamez ces jeûnes, est-ce que c'est vraiment pour l'Éternel? Puisque la plupart du temps, lorsqu'on proclame ces jeûnes-là aussi, bien-aimé, quelquefois c'est pour la recherche des choses matérielles. Est-ce que c'est pour l'Éternel? Ou pour vous-même? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas faire les choses parce qu'il faut faire. Ou parce que, bien-aimé, nous trouvons que c'est bon de le faire. Vous savez que Moïse était tenté de bâtir selon le modèle d'Égypte lorsque Dieu lui demanda de bâtir le tabernacle. Mais pour ne pas que Moïse tombe dans ce piège, la Bible dit que Moïse devait voir le modèle sur la montagne. Et Dieu dit à Moïse, regarde bien le modèle. Et tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Oh bien-aimé, l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que les hommes ne font plus les choses selon que Dieu le veut. Je veux paraphraser ou dire ça autrement. les gens ne font pas des choses en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et j'ajouterai, et avec Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent parce qu'ils trouvent que c'est bien de le faire. Il y a un homme de Dieu qui disait, non, mais ça fait quoi si on peut mettre en place une date fixée, une date de naissance pour Jésus et utiliser cette date pour gagner les âmes à Dieu? Est-ce que le ciel ne sera pas content? Bien aimé, faisons très attention. Parce que les célébrations de ces fêtes commémoraient, ces fêtes-là commémoraient et honoraient tous les événements spéciaux dans l'histoire du peuple de Dieu. Et lorsqu'on célébrait ces fêtes, Dieu se manifestait. Ça veut dire quoi? À chaque fois que, bien aimé, nous faisons une célébration sur terre, c'est pour que la manifestation de Dieu descende. Mais quand, bien aimé, vous célébrez un autre Dieu, attendez-vous à ce que ce Dieu-là aussi se manifeste. Lisez l'histoire de la Noël, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'Église. Mais c'est devenu normal, tout le monde fête la Noël. On fête la journée de la femme à l'Église et on fait beaucoup de choses. Mais quand vous avez fait ces choses, est-ce que c'est pour Dieu que vous l'avez fait? Ou pour vous-même? C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où, même après avoir prêché tel que je prêche comme ça, je dois fléchir mes genoux pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi ou je l'ai fait pour toi? C'est-à-dire, est-ce que je l'ai fait selon ce que toi tu voulais que je le fasse ou je l'ai fait parce que j'ai trouvé bon que c'était bien de le faire? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les enfants charnels, les enfants biologiques remplacent leur père, pasteur de l'Église, parce que bien c'est devenu comme une monarchie. Hein, le père, quand le père abandonne, quand le père est fatigué, il passe la passe au fils. C'est le fils qui doit prendre le ministère. Si ce n'est pas le fils, peut-être c'est la femme qui va continuer le ministère. Est-ce que vous l'avez fait selon Dieu ou selon vous-même? Faisons attention de tomber dans le piège de la tour de Babel. Parce que lorsque nous lisons Genèse chapitre 11, on dit que ces hommes se réunissent. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, nous allons bâtir une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. Bien-aimé, dans ce que tu fais, quand tu chantes, ou quand tu écris un livre, peu importe ce que tu fais dans le Seigneur, ne touchant pas encore le monde, mais le Seigneur, le fais-tu pour toi ou pour Dieu? Quand tu publies, bien aimé, des choses sur Internet, sur Facebook, le fais-tu pour Dieu ou pour toi-même? Tout ce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Quelqu'un pour publier une pensée ou un verset biblique, il doit mettre sa photo. Et généralement, une photo, il est bien sapé. Bien aimé, le fais-tu pour Dieu ou pour toi? C'est à toi-même de répondre à la question. Faisons très attention. Seigneur Jésus a dit, celui qui aimera sa vie dans ce siècle, la perdra. Mais celui qui haïra sa vie, la retrouvera pour l'éternité. Et dans tout ce que vous faites, faites-les pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, ces sept fêtes avaient pour but de glorifier l'Éternel. Mais nous constatons qu'il y a eu des hommes bien aimés mal intentionnés, qui ont utilisé, qui ont pris ces fêtes et les ont utilisées pour escroquer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons parler, bien-aimés, de la troisième fête, la fête de prémices. Quelqu'un m'avait dit, j'ai donné la prémisse ou encore les prémices, c'est quoi? Oh non, les prémices, c'est le premier salaire. Et le premier salaire, tel que la Bible nous montre, le premier salaire doit aller chez le pasteur. Le premier salaire, c'est le salaire du pasteur. Le premier salaire que tu reçois dès que tu commences à travailler doit revenir à l'homme de Dieu. Alors nous allons voir à la lumière des Écritures ce que signifiait ou ce que signifiait et ce que signifie, bien aimé, pour nous, le mot prémisse. La Bible dit, l'Éternel s'adressa à Moïse en ce moment, disons un peu ça, on revient dans Lévitique 23, à partir du verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, et vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur un gerbe. Ah, il y avait beaucoup de gerbes, mais vous apporterez un gerbe. Prémisse de votre moisson. Ça veut dire quoi? Lorsque ces gens devaient rentrer dans un pays quelconque, ça c'est physiquement, et les enfants d'Israël venaient de moissonner, la première gerbe qu'il devait avoir, il devait apporter cette gerbe au sacrificateur comme prémisse. Mais quelle est la représentation? Qu'est-ce que cette gerbe représente en réalité pour nous? C'est là le problème. Parce que les gens disent que la prémisse, ou les prémices, le premier salaire que tu reçois, par exemple, les gens ont pris ça, ils ont mis ça en termes, par exemple, hein, tu travailles dans la société, bon, tu deviens administrateur ou encore, bon, tu étais à l'école, tu as été engagé en fonction publique. Donc, le premier salaire qui vient, c'est ça, ce qu'on appelle prémisse, tu dois donner à ton pasteur. La Bible dit ici, cette gerbe-là, lorsque le sacrificateur prendra la gerbe, la Bible dit, il devait l'agiter de côté, du côté et d'autre, c'est-à-dire d'un côté et d'un autre côté. Donc cette gerbe-là, le sacrificateur devait agiter ça de deux côtés. Et vous allez constater qu'un peu plus devant, on devait prendre le 2/10 de cette quantité qu'on devait offrir aussi en sacrifice. Et en même temps, on devait offrir en sacrifice un agneau sans défaut. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de la Pâque, nous avions dit que l'agneau sans défaut, c'est Christ. Donc nous comprenons par là que la gerbe ici, c'est aussi l'image de Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà Jacob, non, je disais, Joseph avait prophétisé sur ces choses. Dans Genèse chapitre 37. Lorsque Joseph a eu un songe, dans Genèse chapitre 37, la Bible dit ceci. À un moment donné, Joseph a eu des songes. Et au chapitre 7, il dit, nous étions à lier nos gerbes et au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et automatiquement, les frères de Joseph, ah, moi j'aime cette famille, la famille de Jacob, c'était la famille des prophètes. Jacob interprétait les songes, Joseph interprétait et même ses frères interprétaient. Là-bas, l'interprétation, bien aimée, c'était comme le manger, tout le monde interprétait les songes. Ah, si tu es dans la famille du véritable Jacob, si tu lis la Bible, tu recevras aussi l'interprétation par le Saint-Esprit. Bien aimée, la gerbe de Joseph se tient debout et d'autres gerbes sont venues l'entourer et se prosternèrent devant elle. Or, Joseph était la préfiguration de Jésus-Christ parce qu'il a eu deux songes. Hein. Dans la deuxième songe, et plutôt dans le deuxième songe, il a dit qu'il voyait les étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et Jacob a interprété en disant, veux-tu dire que moi, ton père qui suis le soleil, ta mère la lune, et tes frères qui sont les 11 étoiles, nous allons venir nous prosterner devant toi. Ah oui, bien-aimé. Lorsque Jésus était parti monter au ciel, lors de son ascension, les disciples n'étaient pas au nombre de 12. Parce que Judas avait déjà été bien-aimé, écarté. Ils étaient au nombre de 11. C'était pour accomplir cette prophétie. Lui qui est la gerbe, lorsqu'il montait, il y avait 11 étoiles qui étaient là. Et les gerbes ici, il y avait 11 bien-aimés, les 11 gerbes de ses frères qui se prosternaient devant lui, Joseph. Donc nous comprenons par là que lorsqu'on parle de la gerbe ici, la gerbe c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi il devait être agité de deux côtés? Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque Jésus passait par la mort, il partait là, bien-aimé, pour mourir pour le monde, c'est-à-dire pour l'Israël et les nations. Donc, la gerbe devait être agitée de deux côtés, c'est-à-dire vers Israël et vers les nations. Comme le véritable Jacob, il devait prendre Léa et Rachel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ces choses. Et si nous comprenons ces choses, nous n'allons plus bien-aimé nous perdre. Et ces vendeurs de foi, ces manipulateurs, ne vont plus nous manipuler. Ils prennent ces passages et ils mettent quelques pensées derrière, et après, il vous soutire de l'argent. La Bible dit dans la loi ou il y a eu des faux prophètes, c'est Pierre qui dit ça. Il y a eu des faux prophètes, sachez qu'il y aura aussi des faux apôtres. La fête des prémices, en fait, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Au cours de cette fête, les Juifs apportaient aux prêtres les prémices de la moisson, d'après l'ordre reçu par l'Éternel. En fait, pendant cette fête, on présentait une gerbe de la première moisson comme une offrande agitée par des holocaustes, des offrandes de fleurs, de farine, etc. Tout ceci, bien-aimé, préfigurait ce que Christ allait faire et ce que Christ allait être. Donc, quand on parle des prémices, le premier-né, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'il est ressuscité des morts, il est ressuscité comme le premier-né, afin que nous puissions venir en arrière. C'est-à-dire, il est parti, lui qui est la tête de l'Église, il est déjà monté au ciel. Un jour, la tête se positionnera lors de l'enlèvement et le corps va monter vers le ciel. L'apôtre Paul nous dit quelque chose concernant les prémices. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 21 au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 23. Voici ce que dit les Écritures. 1 Corinthiens 15, 21 à 23. Qu'est-ce que Paul dit? Bon, je commence à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices. Remarquez bien. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ah. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse de prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ah, vous comprenez maintenant les prémices. C'est-à-dire celui qui va en avant. Voilà pourquoi, dans le livre de Lévitique, on n'a pas dit que tu prendras deux gerbes que tu donneras au sacrificateur. Non, une gerbe. Ah, parce que bien-aimé, lui, il doit être le premier en tout. C'est lui, il doit être le seul. C'est lui l'homme, souvenez-vous. Quand Pilate l'a attrapé, il a présenté aux hommes, il dit, voici l'homme. Ah, parce que c'est lui qui est l'homme. C'est lui le premier en tout. Mais remarquez. Il était, la Bible dit dans ce que nous venons de lire, dans le livre de Genèse, que la gerbe de Joseph était au milieu. Et les gerbes de ses frères venaient. Disons un peu ça, j'aime beaucoup ça. Oh bien-aimé, si vous pouvez comprendre ces choses. Genèse chapitre 37, verset 7. Nous étions, écoutez ce sens que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes. Et au milieu des champs, voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Cela me rappelle quelque chose dans Apocalypse chapitre 5. Parce que Jean se trouve au ciel, et cela m'étonne, Jean au ciel commence à pleurer, alors que le ciel, c'est le lieu de la joie, le lieu de la joie infinie. Mais Jean pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il y avait un livre scellé. Le livre était scellé et personne n'était digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais quelque part, on a dit que le frère Branham a brisé les sept sceaux. C'est lui qui a brisé le livre. Oh bien-aimé, c'est Jésus seul qui est digne, pas un autre nom. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom auquel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Lui seul a traversé le tabernacle vivant. Lui seul a donné sa vie pour toi et moi. Ce n'est pas Simon Kimbangu, ce n'est pas Branham, ce n'est pas ton prophète, je ne sais qui. Mais c'est Christ, même pas Moïse, même pas Élie. Souvenez-vous sur la montagne de Transfiguration. Lorsque Pierre a eu cette vision, on voyait que Jésus était là dans la gloire, en train de parler avec Moïse et Élie. Il ne savait quoi dire. Il dit, Seigneur, nous allons faire trois tentes. Il voulait égaler Jésus à Moïse et à Élie. Parce que certains avaient vu les signes de Moïse sur Jésus et les signes d'Élie sur Jésus. Mais la Bible déclare qu'une voix se fit entendre du ciel. Attention, Pierre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pour dire quoi? On ne doit jamais égaler Jésus à n'importe qui. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu t'a donné une huile de joie au-dessus de tes semblables. On ne peut pas comparer Jésus à qui que ce soit, bien-aimé. Quel que soit, bien-aimé, ce que cette personne peut faire. Christ reste unique. Et il a dit, nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Apocalypse chapitre 5. Lisons un peu le verset 5 à 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis, on n'a pas dit que on n'a pas dit, bien-aimé, voici Branham qui a vaincu pour ouvrir les sept sceaux. Mais voici le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque je vis au milieu du trône, il dit, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 24 veillards, un agneau qui était là, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On va s'arrêter là. Oh bien-aimé, lorsque la gerbe de Joseph s'éleva, se tint debout, toutes les gerbes l'entourèrent et se prosternèrent. Nous voyons la même chose ici. Dans le ciel, tout le monde doit se prosterner devant le Seigneur. Que ce soit les 24 veillards, que ce soit qui que ce soit, tout le monde doit se prosterner. Parce que Jésus-Christ est le centre du centre. C'est lui la pièce maîtresse. C'est lui la pierre angulaire. La Bible dit, la pierre qu'avaient rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. Sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est lui le secret du salut. C'est lui notre délivrance. C'est lui notre restauration. C'est lui la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui est bien aimé dans le Seigneur, qui guérit le cœur brisé. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc quand on parle des prémices, les prémices bien aimées dans le Seigneur, c'est d'abord Christ qui représente nos prémices. Parce que c'est lui qui s'est donné en premier. Et nous viendrons bien-aimés après, lors de son avènement. Lorsque la trompette va sonner, la Bible dit, nos corps vont se transformer. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et nous allons monter dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Parce que lui, comme prémisse, il est déjà parti, lui qui est la tête. Et le corps va monter, bien-aimés, comme le phénomène de l'aimant. Lorsqu'on place l'aimant bien-aimé, c'est le corps qui a bien-aimé, qui a les mêmes bien-aimés composantes du corps. Bien-aimés, qui vont monter. Qui a la même nature que l'aimant, qui va monter, bien-aimés. C'est ce qui sera en fer, qui va monter, bien-aimés, vers l'aimant. C'est ce qui va se passer. Donc, avant que nous montions, nos corps vont se transformer. On va revêtir le même corps que Jésus avait lorsqu'il est monté au ciel. Et c'est le corps qu'il a maintenant. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la fête des prémices, en effet, la fête des prémices, c'était, en Israël, à l'époque, c'était pour reconnaître. Hein, on célébrait cette fête. Le but, c'était de reconnaître que le fruit de la terre venait de l'Éternel. Et cette fête était associée à la fête des pains sans levain. Hein, vous allez constater cela. En effet, cette fête se faisait dès le lendemain de la Pâque et durant les sept jours des pains sans levain. Parce que pendant les fêtes, la fête des pains sans levain, c'était comme un jeûne, mais ils mangeaient le pain sans la levure. Donc la fête des prémices représente aussi bien-aimé la sanctification et la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous avons compris ce que signifie la fête des prémices. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons y revenir. Comme a dit Paul, je n'ai pas honte de revenir sur les mêmes choses. Aussi longtemps que je ne me... Voilà, il dit, je ne me gêne pas de revenir sur les mêmes choses, de vous parler des mêmes choses, parce que je sais que cela est salutaire pour vous. Pour conclure, je vais dire ceci. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu marchais comme tu voulais, tu n'avais pas encore bien aimé commencer à célébrer la fête des prémices. Parce que j'ai dit la fête des prémices, c'est Christ en nous. Lui qui est le premier-né. Et en lui bien-aimé, nous expérimentons la gloire. Parce qu'il avait dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Nous allons bien aimé finir notre vie auprès de lui. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu marchais comme toi-même, voici l'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Abandonne le péché. Le péché t'emmènera loin de Dieu, en enfer, dans la souffrance. mais rentre dans la vie de sainteté. Marche avec Christ, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu te trouves dans un milieu où le Christ, on parle de Dieu, peut-être dans une église où Christ n'est pas élevé, c'est un homme qui est élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, prie que le Seigneur t'oriente. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous et nous continuerons prochainement avec la quatrième fête, si Dieu le veut, la fête de la Pentecôte. Nous allons voir ce que cela signifie spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, Amen.